Europe 1. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les maires ruraux présentent leurs doléances à Emmanuel Macron. On est à la veille du coup d'envoi du grand débat. Une consultation nationale dont l'indépendance sera garantie, assure le Premier ministre, avec la nomination de 5 personnalités qui s'assureront de l'impartialité et de la transparence de la démarche. Ce grand débat est une chance, une main tendue du pays au pays, dit le ministre de l'Intérieur. Quant à la lettre adressée aux Français par le président, on verra qu'elle n'a pas franchement convaincu les gilets jaunes. Près de 9 millions de contribuables toucheront demain sur leur compte en banque une avance, un acompte sur les crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source. On vous explique tout. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Deux policiers de la BRI jugés à Paris pour un viol qu'ils auraient commis en 2014 sur une touriste canadienne dans les locaux du célèbre 36 quai des Orfèvres. Après l'explosion de samedi rue de Trévise à Paris, une douzaine de bâtiments restent inaccessibles par mesure de sécurité. Pour leurs habitants, la priorité, c'est le relogement. Le mondial de handball, les Bleus face à la Corée ce soir. Le match vient de se terminer. C'était le troisième match de la France avant le choc contre l'Allemagne demain. Des Bleus malmenés en première mi-temps par une Corée agressive, mais qui se sont bien rattrapés et qui ont fini par l'emporter 34 à 23. On retrouvera Christophe Lamar sur place d'ici la fin de ce journal. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce pour demain une journée très douce avec un ciel souvent gris sur une grande partie nord, lumineux entre l'Aquitaine, le Limousin, le Sud-Est et les Alpes. Le vent va progressivement se calmer enfin près de la Méditerranée. Prévision complète à la fin de ce journal. Et puis votre rendez-vous à 22h20 avec Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jacques Bali, le directeur du célèbre guide gastronomique Goemio.
Europe 1.
L'exécutif est donc en train de peaufiner les tout derniers détails du grand débat national qui débute demain et qui est censé apaiser la colère des gilets jaunes. Aurélie Herbemont, Édouard Philippe a donné des précisions ce soir. Le Premier ministre annonce notamment la nomination de 5 garants.
5 sages seront nommés pour garantir indépendance et impartialité du grand débat. Le gouvernement ne veut pas donner l'impression d'avoir la main mise, alors il nommera 2 garants seulement. Les 3 autres seront choisis par les présidents des assemblées qui ont déjeuné aujourd'hui à l'Élysée avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Le président de la République et moi avons souhaité proposer au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental de désigner un représentant reconnu pour sa connaissance des sujets, pour son indépendance et pour son caractère, de façon à ce que ce comité des garants ne soit pas simplement l'expression de choix qui viendrait du gouvernement, mais bien la réunion de personnalités indépendantes désignées par l'ensemble des pouvoirs institutionnels.
On connaîtra le nom de ces 5 garants vendredi. Et histoire d'embarquer toutes les formations politiques dans cet exercice inédit, le gouvernement va proposer à tous les partis représentés au Parlement de participer à un comité de suivi chargé de veiller au respect du pluralisme dans ce débat.
Les précisions d'Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Notez qu'Emmanuel Wargon, la secrétaire d'État chargée d'animer ce grand débat avec Sébastien Lecornu, sera demain matin l'invité d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 à 8h15. Un débat auquel près de la moitié des Français se disent prêts à participer, résultat d'un sondage Opinionway pour Public Sénat. Des Français sans illusion toutefois, ils sont plus de 2 sur 3 à estimer qu'il ne permettra pas de sortir de la crise des gilets jaunes. Pour marquer le coup, en tout cas, le président se rendra dans l'heure pour le coup d'envoi de cette grande consultation. Demain, il sera entouré de plusieurs centaines d'élus locaux de Normandie, des maires dont il a reçu des représentants cet après-midi à l'Élysée, venus avec une immense clé USB représentant les doléances des Français. Parmi eux, il y avait notamment Vannick Berberian, le président des maires ruraux de France, plein d'espoir mais aussi de doutes.
Consulter les Français, c'est bien, mais si c'est pour leur dire « je vous ai compris et entendu et qu'il n'y a aucun débouché », ça posera un problème. Donc voilà, on attend d'en savoir un peu plus sur la manière dont le gouvernement va utiliser ces retours qui seront très très nombreux. Vous l'avez dit, un Français sur 2 a l'intention de participer, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce que vous avez senti que le rôle de maire était renforcé? Vous comprenez le sous-entendu, on l'avait peut-être un peu mis de côté par le passé.
Oui, ce rôle est toujours très très présent dans l'esprit de nos concitoyens. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le gouvernement nous avait un peu négligé. Et là, il y a véritablement une prise de conscience que finalement, les maires sont quand même utiles et ils servent donc d'interface, en l'occurrence, entre des besoins exprimés par les citoyens et le haut de la pyramide qui est censé donc organiser les choses.
Vannick Berberian, le président des maires ruraux de France, qui était ce soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. À la veille du lancement de cette consultation nationale, Emmanuel Macron, vous le savez, s'est adressé aux Français, cette fois par une lettre qui trace les grands contours de ce débat. Pas de questions interdites, explique le président de la République, sauf peut-être sur ce qui a déjà été voté, notamment l'ISF. Emmanuel Macron évoque plusieurs sujets, la transition écologique, le vote blanc, mais aussi la laïcité, l'immigration. Il précise toutefois que cette consultation inédite n'est ni une élection, ni un référendum. Mais a-t-il convaincu les principaux intéressés, ceux à qui il s'adressait en priorité, les Gilets jaunes? Pas sûr du tout, si l'on en croit le coordinateur des manifestants dans la Meuse, Gilles Latour.
On parle toujours des mêmes choses. Il dit bien qu'il ne veut pas toucher à l'ISF parce que voilà, ils ne vont plus investir dans notre pays. Mais ils n'investissent pas, ces gens-là, tout le monde le sait, quoi. Donc, il ne veut pas bouger sur son programme, on a bien compris. Ça ne donnera rien. Ils feront peut-être un condensé, il lâchera peut-être 2-3 miettes comme il a fait le 10 décembre. Mais je crois qu'aujourd'hui, non, je pense qu'ils lâcheront rien. Tout ça, c'est de la foutaise. Ils cherchent à gagner du temps. Ils ne savent plus comment faire pour calmer le mouvement parce que la colère, elle monte de plus en plus. Et ils cherchent des solutions, mais ils ne savent plus quoi faire. Franchement, on n'en attend rien.
Gilles Latour, Gilets jaunes de la Meuse, avec Théo Manval. Vous faites peut-être partie de ces 9 millions de Français environ qui toucheront demain sur leur compte en banque une avance, un acompte sur les crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source. Au total, le Trésor public va distribuer 5,5 milliards d'euros à 8 800 000 foyers, pour être très précis. Alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés, en tout cas. Mais cet argent, il va falloir le manier avec précaution, Olivier Samain.
Oui, alors pour comprendre, je vous invite à faire un petit retour en arrière. En mai dernier, quand vous avez fait votre déclaration sur les revenus de 2017, si vous avez, par exemple, déclaré l'emploi d'une femme de ménage, cette dépense vous a donné droit à un crédit d'impôt. Eh bien, l'administration fiscale fait le pari que vous avez continué à employer cette personne en 2018 et que vous êtes donc éligible, cette fois-ci encore, à un crédit d'impôt. Comme elle ne peut pas faire apparaître ce crédit d'impôt chaque mois dans le prélèvement sur votre salaire, elle va vous le verser en deux fois. Demain, vous allez toucher une avance égale à 60% du crédit d'impôt que vous aviez touché l'an dernier. Le solde, elle vous le versera en même temps que votre avis d'imposition à la rentrée de septembre. C'est là qu'il faudra être attentif, car si dans les faits, vous avez cessé d'employer votre femme de ménage en 2018, vous devrez rembourser la totalité, ou en tout cas une partie, de la somme que vous allez toucher demain. Deux choses encore. Il n'y a pas que l'emploi d'une femme de ménage. Le système est le même si vous avez déclaré des dons, si vous avez payé une cotisation à un syndicat, si vous avez employé une nounou, ou encore si vous avez financé l'hébergement de vos parents en maison de retraite. Et puis deuxième chose, les 60% vont être versés automatiquement sur votre compte, sauf si, comme 345 000 contribuables étourdis, vous avez oublié de donner vos coordonnées bancaires au fisc. Dans ce cas-là, vous recevrez une lettre chèque fin janvier.
Les explications d'Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal. Deux policiers de la BRI ont-ils violé une touriste en 2014 lors d'une soirée alcoolisée? À tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h09 et c'est la suite de votre journal. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Les deux policiers de la BRI jugés depuis aujourd'hui à Paris pour un viol qu'ils auraient commis en 2014 sur une touriste canadienne. Des faits qui se seraient déroulés dans les locaux du célèbre 36 Quai des Orfèvres après une soirée arrosée. Chloé Triomphe, vous avez suivi cette première journée d'audience. La touriste canadienne qui accuse les deux hommes est revenue en France pour ce procès auquel elle assiste, assise non loin de ses agresseurs présumés.
Oui, sur le côté gauche de la salle, face à la cour, les deux policiers anciens de la BRI sont assis l'un derrière l'autre sur leur chaise, chacun vêtu d'un costume noir, sans oser tourner la tête derrière eux, où à un mètre de là, légèrement sur leur droite, se tient leur accusatrice. La Canadienne semble d'ailleurs les ignorer. Elle fixe le président qu'elle écoute sans que l'on sache vraiment si elle comprend, ses avocats ayant précisé qu'elle avait à sa disposition deux interprètes qu'elle solliciterait selon ses besoins. Elle a précisé qu'elle assisterait à l'intégralité de ces trois semaines de débat où les faits tels que présentés par l'accusation, évoquent un viol par plusieurs policiers avec la plus grande brutalité. Mais dès aujourd'hui, le président a rappelé toute la complexité de ce dossier qui avait d'abord conduit le juge d'instruction à ne pas renvoyer les fonctionnaires pour être jugés devant le tribunal, notamment à cause des changements de version et des incohérences de la plaignante. Une seule certitude, le climat général d'alcoolisation et de drague explicite de cette soirée. Les experts canadiens estiment pour leur part que les déclarations changeantes de la victime peuvent tout à fait s'expliquer par un syndrome post-traumatique. Les juges et les jurés ont 3 semaines pour se forger une intime conviction.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. À Paris, toujours l'émotion et les questions. 48 heures après l'explosion qui a coûté la vie à 4 personnes, dont 2 pompiers, et fait des dizaines de blessés rue de Trévise dans le 9e arrondissement. Explosion au gaz, une dizaine d'immeubles ont dû être évacués, plus d'une centaine de personnes relogées. Écoutez les dernières informations fournies ce soir en direct sur Europe 1 par la maire du 9e arrondissement, Delphine Burki.
Nous avons 7 bâtiments qui sont en arrêté de péril et 5 bâtiments qui sont en arrêté temporaire. Donc une douzaine de bâtiments qui aujourd'hui restent inaccessibles pour la sécurité de la population et du quartier.
Les habitants de ces bâtiments, est-ce qu'on va pouvoir les reloger rapidement ou est-ce qu'ils sont logés en attendant? Dites-nous un peu comment c'est organisé au niveau des services
depuis
de la mairie.
Depuis samedi, nous avons accueilli un peu plus de 500 personnes. La grande majorité de ces personnes ont trouvé une solution de relogement temporaire auprès d'amis et auprès de familles. Ce sont 40 familles que chaque soir nous hébergeons dans les hôtels du quartier. Une résidence de la ville de Paris également a été mise à disposition, boulevard Kellermann, dans le 13e. Pour un certain nombre d'habitants, il va falloir maintenant réfléchir à un hébergement longue durée. Le bilan est très lourd, les dégâts matériels sont immenses et la situation, évidemment, ne va pas se rétablir demain matin. Il va falloir de longs mois, voire des années, pour cicatriser ces plaies qui sont absolument énormes.
La maire du 9e arrondissement de Paris qui était l'invitée ce soir du grand journal de Mathieu Béliard sur Europe 1. Un skieur hollandais est mort cet après-midi en Savoie, emporté par une avalanche dans un secteur hors-piste de la station de Valmorel. Attention, le risque d'avalanche reste à un niveau élevé sur l'ensemble des massifs, y compris demain. L'enquête interne après la mort d'une patiente de 55 ans aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris le mois dernier, décès constaté 12 heures après son admission. Elle avait été retrouvée morte sur un brancard. Les causes de ce décès ne sont toujours pas expliquées. Mais aujourd'hui, la PHP a reconnu une série de dysfonctionnements. On a frôlé le blackout jeudi dernier. Notre réseau électrique s'est trouvé au bord de la rupture. Confirmation de la commission de régulation de l'énergie. L'alerte rouge a été déclenchée. Plusieurs gros clients industriels ont été priés d'interrompre leur production pour éviter le pire. C'est la première fois que ce levier d'urgence est activé depuis sa mise en place. Une enquête va être ouverte pour identifier l'origine de ce dysfonctionnement.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h13, merci d'écouter Europe 1. Et l'Europe est suspendue au vote du Parlement britannique. Demain, sur le Brexit, la Chambre des communes doit se prononcer sur cet accord négocié de haute lutte avec l'Union européenne par Theresa May. Mais très critiqué outre-Manche, la Première ministre a tenté une dernière fois de convaincre cet après-midi du bien fondé de cet accord. Et elle met en garde, rejeter ce texte risque de compromettre la sortie et la démocratie. Après 40 ans de cavale, Cesare Battisti, remis à la justice italienne, condamné pour sa participation à 4 meurtres et expulsé dimanche de Bolivie. Il purgera donc en Italie sa peine de prison à perpétuité. Il sera incarcéré en Sardaigne dans un service de haute sécurité. Les sports, les championnats du monde de handball masculin, les Bleus face à la Corée avant le choc contre l'Allemagne demain. C'était leur 3e match de poule dans ce championnat et une 3e victoire, Christophe Lamarre.
Oui, l'équipe de France qui s'impose comme prévu, 34-23. Mais la manière a quand même de quoi inquiéter. Les doubles tenants du titre ont mis près de 3 quarts d'heure pour faire plier des Coréens survoltés. Il faut dire que les 10 000 spectateurs de la Mercedes-Benz Arena, des Allemands pour la plupart, rêvaient, espéraient un exploit. Il a failli se produire et il est probable qu'à la mi-temps, le sélectionneur Didier Dinard n'a pas vraiment récité des mots d'amour à ses joueurs. Trop de pertes de balles, d'erreurs défensives et par moments, un sentiment désagréable, un peu de facilité qui a failli coûter très cher à ces Bleus-là. Quelques-uns ont quand même tenu la maison lorsqu'elle tremblait, ainsi Nedim Remili ou encore les deux gardiens, Vincent Gérard et Cyril Dumoulin, lorsqu'ils n'ont pas été abandonnés par leur défense. Place maintenant à l'Allemagne demain soir pour le choc des Allemands qui n'ont pu faire mieux que match nul face à la Russie en fin d'après-midi et qui laisse donc la première place de ce groupe A à la France. Victoire des Bleus donc sur la Corée, 34-23.
Christophe Lamarre qui suit pour Europe 1 à Berlin, ces championnats du monde de handball. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Demain, vous nous annoncez de la grisaille au nord, mais ce sera plus lumineux au sud.
Oui, Isabelle, ça y est, le ciel s'illumine enfin un peu plus dans le sud-ouest, mais l'après-midi seulement, parce que la matinée, ce sera encore bien nuageux et on aura quelques plaques de grisaille résistantes l'après-midi au pied des Pyrénées, du côté du Pays Basque, ainsi que près de la Garonne. Alors sur le sud-est et les Alpes, c'est du ciel bleu dès le lever du jour et un risque d'avalanche qui persiste, attention, en Savoie. Mais la bonne nouvelle, c'est pour les régions méditerranéennes, le vent Mistral et Tramontane qui rendent fou, eh bien, vont enfin s'essouffler après 3 semaines de ventilation non-stop.
Plus au nord, eh bien on aura encore un cortège de nuages et quelques gouttes ou quelques flocons dans le nord-est. Rien à voir avec la cinquantaine de centimètres qui a blanchi les reliefs de l'Est ce week-end. Mais bon, on aura quand même aussi quelques éclaircies. Le tout dans une atmosphère bien douce, très peu de gelée demain matin. Allez, on aura moins 1 degré, c'est vrai, à Montauban ou encore à Annecy, positif partout ailleurs. Et l'après-midi, pas tout doux dans le Doubs avec 2 degrés à Morteau, 4 à Saint-Étienne, 6 à Clermont-Ferrand, 7 à Strasbourg, 8 à Alençon quand même, à Blois et Lyon, 9 au Havre, à Nantes et Angoulême, ainsi qu'à Toulouse, 10 à Paris, à Quimper, à Bordeaux et Pau, 15 à Montpellier et Marseille, 16 pour Bastia, des températures qui devraient fraîchir en fin de semaine avec une nouvelle offensive hivernale.
La météo, signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Abo de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur du Goemio. A tout de suite sur Europe 1.